Bien, je suis heureux de vous retrouver, de voir aussi des nouveaux visages. Et c'est une bénédiction toujours d'être avec des frères et sœurs de partout et d'être encouragé par vous et de pouvoir apporter quelque chose de la parole de Dieu. C'est un grand privilège et je veux le prendre très au sérieux parce que c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas rien et c'est le message du Seigneur, du Dieu vivant. Et nous avons aussi cette chance, cette grâce de pouvoir connaître Dieu si nous l'avons accepté, si nous avons cru en lui. Et connaître le Créateur, n'est-ce pas la chose la plus belle qui soit et la plus extraordinaire. Ce matin, j'aimerais parler du but du chrétien. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas de but dans la vie? On tourne en rond, on ne va nulle part en fait, hein, puisqu'on n'a pas de but, on n'a pas de direction, on ne vise rien, et quand on ne vise rien, on n'a rien. Et comme a dit quelqu'un avec humour, quand vous ne visez rien, vous avez toujours votre cible, c'est-à-dire rien. Mais qu'est-ce qui se passe quand on poursuit de mauvais buts? Là, on paye aussi la note. On peut avoir des mauvais buts dans la vie, s'enrichir à tout prix, séduire, être vraiment dans toujours le plus tranquille possible, éviter tous les ennuis ou toutes les décisions. Ça, c'est des mauvais buts. Et le chrétien est appelé à avoir un but dans sa vie. Est-ce que son but, c'est de s'en mettre plein les poches, le but du chrétien? Non, vous me rassurez. Est-ce que c'est d'être heureux, le but du chrétien? Non, c'est pas dans la Bible. Ce qui est dans la Bible, c'est que Dieu nous rend heureux par son salut, par son esprit, par son amour. Il nous comble même de bonheur, et on l'a vu encore ce matin dans le psaume 119, heureux ceux qui marchent avec Dieu et qui suivent sa parole. Dieu nous rend heureux, mais ce n'est pas notre but premier. Il y a un but supérieur à être heureux pour le chrétien. Est-ce que c'est d'avoir une vie pépère? Ma petite maison, ma petite voiture, je vais au supermarché, je prends la retraite et je meurs. Est-ce que c'est ça le but du chrétien? Non. Mais des fois, on aimerait avoir cette vie-là. Aucun ennui, je veux qu'il ne se passe rien dans ma vie. Mais ça, ce n'est pas un vrai but. Est-ce que le but, c'est d'être fort et bronzé et beau et musclé? Ça nous fait rire, mais c'est ce qu'on nous propose tout le temps, hein. Il faut aller à la salle de gym, il faut aller à la salle de bronzage, il faut être toujours aller au chirurgien esthétique quand on n'arrive plus à suivre. Ça, c'est le modèle du monde, les buts du monde. Est-ce que c'est ça que nous devons poursuivre? Non, merci de m'encourager dans ce sens. Est-ce qu'il faut être savant? Est-ce que c'est ça le but du chrétien? C'est de tout connaître, d'être un super savant qui peut répondre à tout? Non. Ça, c'est même dangereux, parfois la Bible dit « la connaissance enfle hein ». La connaissance nous rend orgueilleux, mais l'amour, lui, édifie. Alors que dit la parole de Dieu? Il y a un verset que j'aimerais que nous regardions ensemble déjà, c'est dans l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 4. Et en fait, c'est le but que Dieu, notre Père, se propose pour nous. Jacques 1, verset 4. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que, et c'est là qu'il y a le but du chrétien, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Alors ne vous effrayez pas tout de suite en disant parfait, mais qui peut être parfait? Il n'y a que Dieu qui est parfait. Et le mot parfait dans le Nouveau Testament ne veut pas dire parfait dans le sens de l'absolue perfection. Dans le Nouveau Testament, le mot parfait veut dire terminé, accompli justement, achevé, vraiment épanoui au maximum, mais épanoui dans le sens des grâces de Dieu. C'est un chrétien qui a toutes les grâces de Dieu, qui est rempli du Saint-Esprit, qui est formé, en qui Christ est formé dans son âme. Il faut que nous soyons parfaits et accomplis. Est-ce que vous aimez le travail qui est à moitié fait? Ah, je vois des gens qui disent non. Est-ce que vous pouvez imaginer avec moi un pont qui est inachevé? À quoi ça sert un pont inachevé? Ben à rien, parce qu'il est inachevé, il ne va pas de l'autre côté de la rivière, il est au milieu, alors on ne peut pas l'emprunter, il ne sert à rien. Et vous savez qu'il y a des chrétiens comme ça? Ils sont inachevés, et ce que Dieu veut, c'est qu'on soit accompli, achevé. Pas au milieu, là, avec rien au milieu. Un livre, pouvez-vous imaginer un livre ou un morceau de musique inachevé, qui s'arrête au milieu? Ben, c'est dommage quand même. Vous lisez un livre, il y a une histoire, il y a une... vous suivez et hop, ça s'arrête et on ne sait pas la fin. Un morceau de musique, vous l'écoutez, c'est beau et puis pff, ça s'arrête. Il n'y a pas de fin. Ou pour les gourmands, un gâteau inachevé. Hein, vous avez commencé à mettre les ingrédients, vous avez bien mélangé et puis vous arrêtez là. Oh non, non, c'est dommage. Dieu ne veut pas qu'on soit inachevé. Dieu aime les choses terminées. Quelqu'un a comparé notre Seigneur à un sculpteur. Et il prend notre âme et il en fait quelque chose de magnifique. Un chef-d'œuvre. Parce que Dieu aime la beauté, aime ce qui est parfait, ce qui est beau. Et quand il nous sauve, il veut que notre âme soit transformée, soit accomplie. Et ce sculpteur, il a déjà dans la tête le résultat final. Hein. Un artiste, hein, il sait où il va. Vous, quand vous le regardez travailler, vous dites, mais qu'est-ce qu'il fabrique, hein? Il est là avec son argile et puis il fait... C'est vraiment un brouillon, on ne voit rien de sortir. Et puis d'un seul coup, ça commence à prendre forme sous ses mains, sous ses outils. Et à la fin, vous voyez cette statue qui est magnifique. C'est l'œuvre de Dieu. C'est vrai que pendant qu'il travaille, des fois, on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi j'ai cette épreuve qui m'arrive là et qui dure longtemps? Seigneur, pourquoi tu n'as pas exaucé telle ou telle prière? J'avais ce désir dans ma vie et tu ne l'as pas exaucé. Mais Dieu travaille à sa façon parce qu'il a son but pour notre vie. Son but, c'est qu'on soit accompli. Nous, notre but, souvent, c'est d'être tranquille et d'être heureux. On veut une vie tapissée de fleurs et de pétales de roses. Mais Jésus a dit, votre vie ne sera pas comme ça. Il a dit, ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Il y a des persécutions quand on est chrétien. Et on peut se demander, mais pourquoi tu permets des persécutions? Pourquoi il y a nos frères et sœurs, que ce soit en Irak, en Israël, en Afrique? On a un frère qui est de Centrafrique, à Paris. Il dit, les musulmans sont venus détruire les églises. Son église, hein, ils sont obligés de se réunir sous les arbres. Et encore, ils doivent avoir des guetteurs parce qu'ils ne savent pas s'ils vont être attaqués. Et on se dit, mais pourquoi, toi qui es le Tout-Puissant, pourquoi tu permets qu'une fausse religion ennuie tes enfants? Mais ça fait partie du travail de Dieu. Ces chrétiens persécutés, souvent, sont beaucoup plus profonds que nous qui vivons dans la facilité. Parce que eux, quand ils sont chrétiens, ça, c'est à fond. Hein? C'est ça ou rien. Le but de Dieu, c'est qu'on soit achevé. Ce travail de Dieu commence à la conversion. Le Saint-Esprit nous fait naître de nouveau et ça commence. Et le Saint-Esprit nous travaille, la parole de Dieu nous touche, les épreuves, les situations, l'Église, les frères et sœurs, les messages du pasteur, tout cela contribue à nous changer pour qu'on soit accompli. Mais accompli jusqu'à où? Quel est le but ultime? Alors, j'aimerais vous lire deux versets ici. Si vous voulez suivre dans votre Bible, vous pouvez aussi. Le premier est en Colossiens 1, 28. Et c'était le but de l'apôtre Paul. Paul avait une particularité, il allait de l'avant et il suivait un but. Et on a besoin d'imiter cet apôtre aussi pour avancer dans la foi. Et là, les pasteurs aussi peuvent être touchés par ce verset. Colossiens 1, 28, c'est lui, Jésus, que nous annonçons, exhortant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu... tout homme devenu parfait, accompli, achevé en Christ. Le but du pasteur et de l'évangéliste, c'est d'annoncer l'évangile, de prêcher, mais aussi d'enseigner, d'instruire jusqu'à ce que la personne soit chrétienne d'abord, mais un chrétien achevé. On ne doit pas s'arrêter au milieu et dire « Bon, ben toi, tu as accepté le Seigneur, tu connais les bases, tu as été baptisé, maintenant débrouille-toi. » Paul, son but, c'était de présenter à Dieu chaque chrétien dont il était responsable comme accompli. Ça demande beaucoup de persévérance. C'est pour ça qu'il était tout le temps en train de prier. Il dit je n'arrête pas de prier, je ne cesse pas de prier pour vous. Pourquoi ? Mais parce qu'il savait qu'il y avait encore du chemin, du travail pour ces chrétiens. Parfois, on se contente d'évangéliser. On dit ça y est, j'ai donné 25 ou 50 ou 200 traités, ça y est, j'ai fait ce qu'il fallait. Non, il faut viser plus haut. Je prie que les gens soient sauvés et en plus qu'ils deviennent des chrétiens accomplis. Et quand le pasteur travaille dans l'église, quand il prêche, quand il exhorte, quand il visite, son but, c'est pas seulement de nous consoler, même s'il le fait. Son but, c'est pas simplement de dire bah, tout va bien, t'inquiète pas. Non, il a un autre but qui est celui de Dieu. Normalement, c'est que chaque chrétien soit accompli. Parfois, quand on est désobéissant à Dieu, on aimerait ne pas être repris. On n'aime pas trop être repris. On a notre ego, notre fierté. Bon, je fais mes erreurs et voilà. Mais le rôle de Dieu et aussi des serviteurs de Dieu, c'est de dire attention, le péché a des conséquences. Et reviens au Seigneur, marche avec Dieu, marche pleinement avec Dieu, c'est ça le but. Dieu veut le maximum. Parfois, le bien est l'ennemi du mieux. Et le vrai proverbe français, c'est l'inverse, hein, le mieux est l'ennemi du bien. Mais dans la Bible, le bien, c'est l'ennemi du mieux. C'est-à-dire, si on dit, moi, je suis converti, je n'ai pas de gros péchés dans ma vie, je ne tue pas les gens... Je n'ai pas commis d'adultère, je respecte la limitation de vitesse, je pense que j'ai atteint un bon niveau chrétien là. Ben non. Parce que quand Dieu nous sauve, c'est pour le mieux, pour le meilleur, pour le maximum. Et on va arriver, qu'est-ce que c'est le maximum ? C'est où ? Galates 4, 19. Là, on a un élément supplémentaire. Et c'est Paul qui... Il parle encore aux chrétiens et il les appelle « mes enfants ». Il n'était pas juste un pasteur pour eux, il était leur père spirituel. Galates 4, 19, « mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » C'est une expression un peu étrange. « Christ soit formé en vous. » Si on reprend l'image du sculpteur, on a un sculpteur qui a un modèle parfait, qui est Jésus-Christ. Et nous, on est à côté, et le sculpteur, il veut qu'on soit exactement comme Christ, qu'on ait le même caractère. Et vous me dites, mais c'est impossible, Christ est Dieu. Moi, je suis un être humain, pécheur, né dans le péché. Mais si Dieu dit qu'il veut que Christ soit formé en nous, c'est que c'est possible. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir les mêmes paroles que Jésus et les mêmes attitudes ou la même coiffure ou je ne sais pas. C'est qu'on a le même caractère parce que nous avons l'esprit de Jésus-Christ. Si nous sommes sauvés, nous avons reçu l'esprit de Jésus-Christ. C'est ce que dit l'Épître aux Romains. Si du moins vous avez l'esprit de Christ, vous êtes sauvés. Ça veut dire que Christ est en moi par son esprit et qu'il veut être formé en moi. Il veut que je lui ressemble de plus en plus. Alors on peut se demander, mais alors est-ce que je vais devoir perdre ma personnalité ? Est-ce qu'on va tous être des clones ? Non, ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu aime la variété. Hein, ça, il suffit de regarder dans la nature, on voit bien que Dieu aime la variété. Les hommes, eux, ils plantent des trucs comme ça. Hein, on a un champ de peupliers, un champ de pin, un champ de maïs, tous pareils. Dieu, lui, si vous regardez... un paysage naturel qui n'a pas été travaillé par l'homme, il y a une infinité de choses différentes. Même on se dit, c'est le bazar là-dedans. Hein, mais ce n'est pas le bazar, parce que Dieu a tout pensé. Chaque arbre a sa place. La mousse à sa place, le champignon, le buisson, tout est là à sa place et fait une symbiose extraordinaire par la sagesse de Dieu. Nous, on plante les choses. Et Dieu veut qu'on soit tous différents. Et c'est pour ça qu'il a dit dans l'Église, hein, chacun a des dons spirituels différents. Comme dans un corps, il y a des membres, il y a la main, il y a le bras, il y a la tête, il y a les jambes. Et avec ces tous différents, Dieu fait quelque chose de merveilleux. Mais alors, comment Christ peut être formé en moi tout en gardant ma personnalité? Mais en fait, c'est que Dieu purifie ma personnalité, mon âme. Mon âme a plein de mauvaises habitudes, plein de choses qui l'ont salie, de péchés, de choses que j'ai faites, que j'ai dites, que j'ai vues. Et Dieu veut purifier cette âme. Et ensuite, il y a plein de choses qui me manquent. Je manque d'amour, je manque de sagesse, je manque d'humilité. Alors, le Saint-Esprit produit ces choses en moi. Je manque de joie, je manque de foi, je manque de tout. Et il le produit comme elles étaient dans le Seigneur Jésus et comme elles sont dans le Seigneur Jésus. C'est-à-dire la joie que Dieu produit en moi. Ce n'est pas la joie du monde ou la joie d'un humoriste quelconque. C'est la joie de Christ qu'il produit en moi. Est-ce que Christ était joyeux? Mais oui. Bien sûr, même s'il avait beaucoup de fardeaux à porter, il avait une joie profonde. L'humilité de Christ, ce n'est pas juste l'humilité telle que je l'imagine. On a cette idée de l'humilité, il faut être une sorte de serpillière. Quelqu'un de humble, c'est quelqu'un qui dit « Oh, moi je ne vaux rien, je ne vaux rien ». Mais plus je dis ça, moins je suis humble, parce que en fait, je me centre sur moi-même. Hein. Ce n'est pas ça l'humilité, ce n'est pas dire « je ne vaux rien ». L'humilité, c'est Dieu est plus grand que moi. Et mes frères et sœurs, je veux les placer plus haut que moi. C'est ça l'humilité dans la Bible. Je mets les autres au-dessus de moi-même. Et je disparais, comme a dit Jean-Baptiste, hein, pour que Christ soit vu. Ça, c'est la vraie humilité chrétienne. Et donc, ce n'est pas l'humilité telle que je l'imagine, c'est l'humilité de Christ. Et de plus en plus, les grâce, le caractère de Christ doit apparaître dans ma vie. C'est ça le but. Est-ce que vous croissez dans ces choses? Est-ce que vous êtes de plus en plus humble? Est-ce que vous êtes de plus en plus saint comme Jésus? De plus en plus aimant comme Jésus? De plus en plus compatissant comme Jésus? Est-ce que votre but, c'est d'être comme Christ? On sait qu'on sera comme ça à la résurrection. Lorsque le Seigneur viendra et qu'il ressuscitera ses enfants, nous serons transformés et là, nous serons sans péché et là, ce sera la perfection, vraiment. Mais en attendant sur terre, est-ce qu'on doit attendre la résurrection et dire, ben moi, je fais rien, j'attends la résurrection. Je suis dans mon fauteuil, je regarde la télé, je vais à l'église de temps en temps et j'attends la résurrection. Est-ce que c'est ça le plan de Dieu? Non, 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 non. On doit grandir en sainteté, on doit être de plus en plus accompli, on doit mûrir. Ici, le mot parfait, ça veut dire aussi mûr. Adulte, la maturité chrétienne, combien c'est important aux yeux de Dieu. Un autre verset qui sera un des derniers pour ce matin, Éphésiens 4. C'est un passage biblique, Éphésiens 4, versets 13 à 15. Là encore, Dieu nous fixe un but. Alors regardez bien le but qui nous est fixé. Mais là, c'est en tant qu'Église, ce n'est pas seulement en tant qu'individu. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, d'homme accompli, d'homme mûr, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottants, emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en Christ qui est le chef. Ça, c'est le projet de Dieu pour chaque chrétien. Est-ce que vous saviez que c'était le projet de Dieu pour vous? Parfois, on passe à côté hein, de la vie chrétienne parce qu'on n'a pas de but. On n'a pas le projet de Dieu. On vit sa vie chrétienne comme ça, tant bien que mal. Mais là, il y a un but fixé. On doit parvenir à l'unité de la foi. C'est quoi l'unité de la foi? Là, la foi, c'est dans le sens de la doctrine, de l'enseignement, de la connaissance des Écritures. Ce n'est pas la foi de croire, c'est la foi, le contenu de la foi. Et il faut qu'il y ait une unité de la foi dans l'Église, qu'on soit sur la même longueur d'onde. Mais comment c'est possible? Mais plus on est près de Jésus-Christ, plus on est d'accord sur les choses. Hein, on peut comparer ça un petit peu à cette image hein, où Christ est là au centre et nous on est sur la périphérie, on tourne autour. Alors on a des différences, il y en a qui sont en haut, en bas, d'autres à droite, à gauche. Mais plus on se rapproche de Christ, plus on est proche. Et plus on connaît le Seigneur, plus on aime le Seigneur, plus on étudie sa parole et plus on est proche. Je suis étonné de voir des chrétiens d'autres pays que j'ai jamais rencontrés qui parlent même pas la même langue. Et quand on parle du Seigneur, on se rend compte qu'on croit les mêmes choses, même sur des détails. Je dis, mais c'est pas possible, on n'a pas eu le même pasteur, le même enseignement. On a eu le même Dieu, le même Saint-Esprit, on a la même Bible. Il dit, jusqu'à ce qu'on parvenu à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. La doctrine n'est pas suffisante. Si on n'est que dans la doctrine, on devient sec, légaliste, on juge les autres tout le temps. Il faut connaître le Fils de Dieu, il faut grandir dans la connaissance du Seigneur. C'est ce qui donne tout son vivant à la vie chrétienne. Est-ce que vous cherchez à connaître Dieu de plus en plus? Ou est-ce que vous dites, ben moi ça y est, je suis converti, donc je connais Dieu, ben voilà, c'est terminé. Je pense avoir fait ce qu'il fallait. J'ai été baptisé. Je suis étonné parfois, pour certaines personnes, le baptême, c'est la fin de leur vie chrétienne. C'est l'examen final, c'est le baccalauréat de la vie chrétienne. J'ai mon bac. Alors que le baptême, c'est le commencement. C'est le premier pas d'obéissance. Et quand on est baptisé, il faut grandir encore. Être comme Christ. Connaître Dieu, le Fils de Dieu. Si on n'a que la connaissance du Fils de Dieu, mais on n'a pas l'étude des Écritures et la doctrine, on est en danger. Il faut avoir les deux jambes. Hein. L'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu. Connaître le Seigneur. Seigneur, je t'aime, je te cherche. Montre-moi qui tu es. Et puis, jusqu'à ce qu'on soit parvenu à l'état d'homme fait. Homme ou femme, bien sûr. Hein. Dieu veut qu'on soit des gens mûrs dans notre foi. Au début, quand on est né de nouveau, on est comme un bébé dans la foi. Un bébé dans la foi, qu'est-ce qu'il lui faut? Du lait. De l'amour, beaucoup d'attention. Parce qu'on découvre tout, on est fragile et on dit mais on découvre. Et on a besoin d'être entouré et Dieu nous entoure particulièrement quand on est nouveau dans la foi, on est un bébé. Mais au bout d'un certain nombre de temps, de jours, de semaines, de mois, ben, il faut grandir. Est-ce que vous aimeriez avoir un bébé qui a 30 ans? C'est horrible, hein, rien que d'y penser. Un gros bébé de 30 ans. Oh non, à un moment, il faut grandir, il faut être mûr. Mais il y a des chrétiens comme ça, qui ne grandissent pas, parce qu'ils ne visent pas de but, ils ne cherchent pas à aller plus loin, ils ne cherchent pas à connaître le Seigneur plus, ils ne cherchent pas à grandir dans la connaissance des Écritures, ils se satisfont de là où ils en sont. Nous soyons des hommes faits à la mesure de la stature parfaite, ça y est, voilà ce que dit l'Écriture. On doit être à la même taille que Christ. C'est le Saint-Esprit qui fait ça en nous. Mais il faut le laisser faire ce travail en nous pour qu'on arrive à la même taille que Christ. Chrétien, ça vient d'où au départ le mot chrétien? Christ, c'est des chrétiens. Puis après ça a été changé en chrétien. Nous sommes des chrétiens. On doit représenter Christ. Et on a l'esprit de Jésus-Christ, donc ça doit se voir. Et puis il dit que nous ne soyons pas des enfants, verset 14, flottant. Alors un enfant, il a des particularités. Un enfant, c'est mignon et combien c'est merveilleux d'avoir des enfants. Mais un enfant qui reste un enfant, là, il y a des problèmes. Il va être ignorant de certaines choses. Un enfant, il connaît très peu de choses. Il va être facilement séduit, on voit ici. Hein. Flottant, emporté, instable. Un enfant, il a besoin d'être cadré, d'être protégé, d'être entouré. Dire, ah non, là, tu ne peux pas aller par là, non. C'est mauvais, c'est dangereux. Et si on est un chrétien enfantin, un chrétien immature, on va être pris par tout vent de doctrine. Hein. Le premier qui parle, le dernier qui parle, on va dire, ben oui, lui, il a raison. Puis après, il y a un autre qui arrive, ah ben non, ben c'est lui qui a raison. Un chrétien mature, un chrétien mûr, c'est quelqu'un qui dit, non, la parole de Dieu dit ça. Alors, ce que vous me dites, vous avez beau être pasteur ou tout ce que vous voulez, passer à la télé ou écrire des livres, non, La Bible dit ça. Ça, c'est un chrétien mûr. Il connaît sa Bible. Il sait ce qu'il croit. Il a des convictions qui viennent de Dieu, de la Bible et du Saint-Esprit. Ça, c'est le signe de la maturité. Mais l'enfance, c'est, connaît pas sa Bible, on ne sait même pas trouver les livres dans la Bible. Là, il faut progresser. On ne peut pas rester comme ça. Il y a des chrétiens qui sont flottants, qui sont instables, qui sont facilement séduits parce qu'ils n'ont pas grandi en maturité. Dans la maturité, il y a une fidélité. C'est quelqu'un de stable, qui une colonne, quelqu'un qui ne bouge pas parce qu'il s'est confié dans le Seigneur une fois pour toutes. Il y a aussi une persévérance. Quand on est enfant, on n'a pas beaucoup de persévérance. On essaye un peu, puis, j'y arrive pas. Bon. Mais un adulte, quelqu'un de mûr, il dit, j'y arrive pas, mais on va continuer jusqu'à ce qu'on y arrive. Ça, c'est la marque de la maturité. Il y a des chrétiens qui disent, oh non, c'est trop dur la vie chrétienne. Oh non, j'arrive pas à faire ça. Ou je comprends. Mais persévère. Persévère, le Seigneur est avec toi, il te pousse, il t'encourage. Tu as le Consolateur qui est en toi. Dans la maturité, il y a aussi l'esprit d'église. Là, il parle à une église jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus d'église d'Éphèse. Et il y a un esprit de groupe, d'équipe dans la maturité. Un enfant, il a tendance à jouer solo, c'est-à-dire il est centré sur lui-même. L'enfant, il dit, moi, il pleure et occupez-vous de moi, quoi. C'est ça qu'il dit. Mais l'adulte, il n'en est plus là. L'adulte, il s'occupe des autres. Et il voit qu'il faut travailler en équipe pour être plus efficace. Ça, c'est l'esprit de maturité. C'est l'esprit chrétien. Le Saint-Esprit donne des dons et on fait un corps. On n'est pas des tirailleurs, chacun de son côté qui tire d'un côté. Non, on est une église, on avance ensemble. Alors, c'est dommage quand on a une vie chrétienne en zigzag. Ou en montagne russe, ceux qui aiment les manèges, les montagnes russes, vous montez très haut et vous descendez très vite. Il y a des chrétiens qui ont des vies chrétiennes comme ça. Le dimanche, ils sont gonflés à bloc et le lundi, ils descendent à fond. La déprime, le péché, la désobéissance, ce n'est pas ça le but de Dieu pour nous. Le but de Dieu, c'est qu'on ait une vie qui monte. Stable. Profonde, puissante. Ce n'est pas une vie qui monte comme ça, comme les fusées. Parce que Dieu fait les choses en son temps. Il prend son temps. Il dit, les justes croissent comme le palmier. Vous avez beaucoup de palmiers dans la région. Moi, ça, à Paris, ça nous manque. On a des vieux platanes moribonds. Vous avez des beaux palmiers. Eh bien, pensez chaque fois que vous voyez un palmier, et il y en a pas mal, pensez que c'est comme le juste, le chrétien, le croyant. Et le palmier, il grandit un anneau par an quasiment. Donc ça met du temps quand même. Vous pouvez savoir l'âge d'un palmier en comptant ses anneaux. C'est pas, le palmier ne pousse pas en 3 jours. Et un chrétien, il ne se fait pas en 3 jours non plus. Dieu met du temps. Il y a des épreuves, il y a des années de sanctification. Mais il faut grandir, il faut avancer dans la vie chrétienne. Paul dit en 1 Corinthiens 13, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. » C'est normal, il n'y a rien de bizarre là. Quand j'étais un enfant, je pensais comme un enfant. « Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. » C'est qu'il y a un moment, il faut dire, « Maintenant, je suis un homme, je suis une femme. Je suis un adulte. Il faut que j'arrête mes enfantillages. » Les Corinthiens étaient dans les enfantillages. Ils se querellaient tout le temps. C'était à celui qui faisait des concours de parler en langue et de prophétie. Ils s'enivraient pendant la Sainte Cène. Ça, c'est des enfantillages, c'est des caprices. Graves, très graves. Détruisaient leur propre église. L'aspect adulte, la maturité, c'est cet esprit de sacrifice, d'équipe, de loyauté, de fidélité. On veut bâtir. Un adulte, il construit quelque chose. Un enfant, il démolit ses jouets. L'adulte, il bâtit. Alors le Seigneur veut qu'on soit des adultes, qu'on arrête nos enfantillages et qu'on avance avec lui. N'ayez pas peur de ce but. C'est un but extraordinaire. Dieu veut que vous soyez épanouis dans le Seigneur. Que toutes ces grâces, c'est le fruit de l'Esprit, de Galates, se manifeste à travers vous. Pas besoin d'être pasteur ou missionnaire, hein. C'est pour tous les chrétiens. Et c'est le Saint-Esprit qui produit ce fruit si vous le laissez vous remplir, si vous marchez près de Dieu. Et que le Seigneur nous aide, et il a promis d'être là chaque jour, chaque minute, pour qu'on soit tous des beaux chrétiens accomplis et que nos églises soient pleines de chrétiens solides. Il y a des attaques, il y a un ennemi spirituel. C'est le moment d'être solide, ce n'est pas le moment de faillir là. Il faut marcher avec Dieu jusqu'à la fin de ses jours et que le Seigneur vous bénisse dans ce sens. Merci.